Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 144. Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2025. Comme d'habitude, je suis Horacio González et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Sébastien Brunat. Bonjour Sébastien.
Bonjour Horacio.
Qui peut se cacher derrière ce Gitpool? C'est Julien Durillon. Bonjour Julien.
Bonjour Horacio, bonjour tout le monde.
Et derrière Franck en PHP, ça ne peut être que Mathieu Santostefano. Bonjour Mathieu.
Salut Horacio, salut tout le monde.
Bon, je suis super content de vous avoir là et pour ne pas déroger les bons principes, on va commencer avec un petit tour de table. Vous pouvez vous présenter et raconter un petit peu qui vous êtes? Allez, on va faire dans l'ordre qu'on a présenté. Sébastien, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Raconte.
Alors, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis ingénieur avant-vente pour l'équipe commerciale de Clever Cloud. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'accompagne les clients, même les prospects généralement, qui voudraient venir déposer leurs applications PHP, par exemple, mais pas que, sur Clever Cloud pour leur faire des conseils en architecture et leur conseiller des solutions adaptées à leurs besoins.
Nickel! Julien, qui t'y est?
Oula, officiellement, je suis vice-président d'ingénierie chez Clever Cloud. Je suis un des fondateurs de la boîte. Concrètement, aujourd'hui, vu que la boîte atteint une centaine de personnes, ça veut quand même beaucoup dire que je fais le vieux sage sur la montagne à expliquer à quoi ressemble l'historique de la boîte techniquement pour tous les nouveaux qui viennent pour construire le futur.
Donc, Julien, vieux sage sur la montagne. C'est bon comme titre. Et Mathieu, qui t'y est?
Eh ben moi donc je suis Mathieu, je suis expert technique chez Sensio Labs. Avant ça, j'ai passé une dizaine d'années dans une autre agence qui s'appelle Joli Code, et je suis aussi membre de la core team de Symfony, donc un framework PHP français à l'origine, mais maintenant international depuis 2021. Donc ça va bientôt faire 4 ans. Voilà. Et donc Sensio Labs, expert technique, j'accompagne des clients sur des audits d'architecture, sur des études d'architecture, sur des missions coup de poing où il y a des sujets complexes à craquer. Donc voilà, accompagnement sur toute la stack PHP et puis un peu ce qui gravite autour, les bases de données, le cache, HTTP, voilà, plein de choses.
Nickel, je suis vraiment content de t'avoir ici parce que c'est pas souvent qu'on a des gens de la communauté PHP dans notre massif. Et là, c'est super top comme ça. On va pouvoir aussi raconter des news que c'est pas ce qu'on raconte habituellement et c'est très bien.
Ben super.
Bon, je pense que quand on a préparé l'épisode, on a un palanquet de liens pour parler. Ça va être chaud d'essayer de parler de tout ça. Donc, je vous laisse commencer. Allez, Mathieu, à toi l'honneur. De quoi tu veux commencer à nous parler?
C'est vrai qu'on a une palanquée de liens. Dans l'ordre des choses, on peut parler d'un sujet qu'on a vu ensemble, enfin en tout cas que moi j'ai vu quand on s'est croisé la semaine dernière à l'API Platform Con à Lille. C'est FrankenPHP qui a annoncé le support, alors à venir parce que c'est encore expérimental, de gRPC. Parce qu'en fait, historiquement, faire un serveur gRPC en PHP, c'est moyen possible, voire pas possible, parce que on n'a pas le moyen d'avoir des connexions persistantes de façon native. PHP, c'est un modèle fail and forget, on oublie tout ce qui se passe à la fin du traitement d'une requête, et donc on a ce problème-là. Sauf que FrankenPHP, qui est supporté maintenant par Clever, arrive avec un nouveau serveur d'application pour PHP, qui a un mode dit worker, qui permet de garder le même process et d'exécuter différentes requêtes avec le même process, et donc on n'a plus ce fail and forget. Du coup, on a un moyen de supporter gRPC en tant que serveur. Et donc, de ce que j'ai compris, de ce que Kevin a expliqué, parce que généralement, quand Kevin Kevin, le fondateur, le créateur d'API Platform et de FrankenPHP, quand il part dans ce genre de sujet, faut un peu s'accrocher. C'était assez dense comme présentation. Et donc, de ce que j'ai compris, il a une partie du serveur applicatif donc écrit en Go, hein, FrankenPHP écrit en Go. Cette partie-là va s'occuper de la connexion persistante et va s'occuper de transformer la requête gRPC en une requête compréhensible par PHP, et donc derrière par Symfony, API Platform, Laravel, enfin, ce que vous avez comme, comme framework. Et à l'inverse, au moment de la, du retour de la response, bah, on va voir la transformation inverse qui va être convertie. Alors, je ne sais pas si la partie protobuf sera faite côté PHP ou côté Go, j'en sais rien, c'est, je ne sais pas si c'est encore défini. Mais il y aura cette, voilà, cette conversion à double sens, aller-retour, et le maintien de la connexion versitante gRPC par une extension du coup. Il y aura une extension en Go dans FrankenPHP qui permet de gérer ce, ce support de gRPC. Donc voilà, ça permet d'ajouter une des dernières briques tech web qu'il n'y avait pas à PHP nativement. Et,
voilà. Ça c'est top, parce qu'effectivement, ce qui est un choix de PHP depuis 30 ans, un truc comme ça.
Et ouais, 30 ans cette année, ouais.
C'est ça. Ce qui est dans l'architecture PHP, effectivement, c'est simple. Tu as un fichier, tu appelles ce fichier, ça exécute le fichier, ça répond. Après, il y a tout un tas de frameworks qui ont rajouté de la complexité à tout ça. Je ne dis pas que c'est devenu plus compliqué, mais qu'on rajoutait des choses un peu plus entreprise, on va dire, à ce qu'on appelait à la base personal homepage. mais effectivement, ce fonctionnement-là.
C'est vieux maintenant, merci.
non, mais c'est effectivement ce fonctionnement-là de tu lances un script et une fois que le script est fini, ça pose, enfin, ça pose dans certains cas d'usage un certain nombre de problèmes. Nous, le plus gros qu'on voit chez Clever Cloud, c'est quand tu dois te reconnecter à la base de données quasiment à chaque fois. Donc, pour ça, il y a différentes solutions, mais c'est quand même le plus gros point noir, je trouve, en général, quand on voit passer des tickets PHP sur le support, c'est des gens qui galèrent parce qu'ils décident d'ouvrir 50 connexions pour chaque requête, ce genre de choses. Après, parfois, le problème est entre la chaise et le clavier, mais effectivement, ce modèle-là fait qu'il faut le savoir, et quand tu commences à faire des trucs un peu complexes, tu te fais facilement avoir. Mais effectivement, déjà, FrankenPHP, qui te permet de partir plus en mode serveur d'app, où potentiellement tu peux avoir des choses qui tournent un peu plus long terme. J'ai pas suivi, mais il me semble qu'ils ont bossé aussi sur j'ai vu passer, peut-être qu'ils travaillaient dessus, du connection pooling aussi, où je me trompe. J'ai dû entendre une discussion à un moment.
En fait, cette extension-là, elle est basée sur un autre truc que j'ai annoncé il y a quelques semaines maintenant. C'est le fait de pouvoir écrire des extensions PHP. Donc, historiquement, écrire des extensions PHP, c'est en C. Et là, ils ont ajouté le fait dans FrankenPHP de pouvoir les écrire en Go. Et en fait, FrankenPHP fournit l'espèce de petite glue C qui est indispensable à register une extension PHP. Et on peut écrire quasiment l'intégralité, je crois qu'on est à 99% du code qui est écrit en Go, voire presque 100% dans les cas les plus simples.
Je crois, les amis, que c'est le moment où on va devoir donner une petite explication de qu'est-ce que c'est FrankenPHP pour des newbies. Parce que là, je pense que certaines des personnes sont en train de nous écouter, mais de quoi ils parlent? Si, c'était la petite peluche que, sous laquelle Mathieu s'est caché,
oui,
mais
ça.
Pas que. Qu'est-ce que c'est FrankenPHP?
Je peux l'expliquer ou Julien,
vas-y.
Si tu
veux.
Bah, FrankenPHP, c'est un peu le nouveau, le plus moderne des serveurs d'application qui est capable de servir du PHP. Donc historiquement, on avait mode PHP avec Apache, donc le fameux module PHP qui se branche sur Apache. Et on avait aussi PHP FPM qui est généralement le backend qui a derrière les serveurs Nginx. Et en fait, bah, tout ça, ok, c'est super, ça existe depuis super longtemps, c'est maintenu et tout, mais ça n'évolue pas des masses. Et donc, en fait, Kevin Dunglass, qui est entre autres le créateur de FrankenPHP, d'API Platform et le patron des TL, a créé ce nouveau serveur d'application, FrankenPHP. Donc, c'est écrit en Go, ça se base en fait sur Kadi Web Server, donc qui est un web server plus moderne, qui lui aussi est écrit en Go.
Donc, qui remplace Apache.
Voilà, qui peut remplacer Apache pour le coup. Alors Kadi, pour le coup, voilà, c'est un concurrent, on va dire, entre guillemets, direct à Nginx, Apache, pas dire 2IS, mais voilà, enfin toute cette palanquée de serveurs web qui
existe. Mais c'est ça.
Et oui. Et donc c'est très extensible, et donc Kevin a fait en sorte d'écrire quelque chose qui est capable de recevoir une requête HTTP raw, enfin pure, quoi, brute, et de faire tourner un moteur d'exécution, de faire tourner le moteur d'interprétation de PHP. Donc le PHP SRC, en fait, il le compile et il le fait tourner à côté de Kadi, et donc c'est ça FrankenPHP. Donc soit on s'en sert en tant que FrankenPHP qui est une distribution de Kdi qui embarque ce moteur PHP, soit on peut utiliser Kdi comme serveur web, ajouter d'autres extensions, dont FrankenPHP. J'espère que je dis pas de bêtises. Si Kevin, tu nous écoutes, il faudra que tu corriges, mais normalement, c'est à peu près ça le truc.
En tout cas, ça donne une explication claire pour ceux qui étaient passés à côté de FrankenPHP.
Et voilà. Et donc, ça explique pourquoi la news dont tu parles, dont on parle là, gRPC, est maintenant possible, parce qu'effectivement, quand tu avais Apache avec derrière PHP, FPM et la discussion entre les deux,
c'est ça.
Le gRPC était plus compliqué à développer. Et en fait, FrankenPHP permet de rajouter des nouveaux usages de ce type-là. Et moi, je parlais de connection pooling à la base de données, et je pense que c'est le genre de choses qu'il y a des gens qui doivent être en train de bosser dessus.
Parce c'est bien
que,
possible.
C'est un gros point aussi.
Mais parce qu'historiquement, que ce soit Nginx ou Apache, on a ce fameux modèle Fire and Forget, et soit il fallait utiliser des extensions un peu particulières pour ne pas avoir ce comportement-là, et en fait, Franken arrive à un mode par défaut qui est le mode worker, qui va en fait faire tourner plusieurs requêtes entrantes sur le même process PHP. En tout cas, sur le même process de serveur d'application, je ne sais plus en interne si vraiment c'est le même process PHP ou s'il en boot plusieurs et puis après il répartit. Ça, c'est la tambouille interne de Franken. Mais je sais qu'il y a des requêtes qui peuvent être exécutées sur le même process. Et du coup, ça déporte en fait à la responsabilité du développeur PHP le fait de devoir reset certains trucs en mémoire ou devoir se reconnecter à des choses. Donc ça change un peu le modèle historique de qu'on a depuis une trentaine d'années en fait en PHP. Faut repenser quelques trucs.
Mais ça du coup, ça ferait pas. Vas-y, j'ai une transition. Si c'est d'avance. Est-ce que ça ferait pas revivre PHP?
Mais c'est ça.
Ça
tombait bien. J'ai aussi ma transition qui s'est basée sur ça. Je vous raconte ma transition parce que c'est la même chose. L'autre jour, je disais justement, oui, c'est fou comment mon PHP a évolué, ça a changé. Et j'essaie d'expliquer à d'autres développeurs que PHP n'est pas mort. Et c'est Mathieu qui m'a dit, ah non, il ne faut pas dire que PHP
Exactement.
N'est pas mort.
Exactement.
Tu nous expliques cette idée-là.
Ouais, ça c'est un autre lien, si j'arrive à le retrouver pour ne pas dire de bêtises dessus. En fait, quand on dit que PHP est mort, le problème du cerveau humain, c'est qu'il entend PHP est mort. Mais PHP ET mort, c'est-à-dire qu'on entend ces deux mots-là. Et en fait, avant d'interpréter la négation, le cerveau humain, il va interpréter d'abord les mots principaux de la phrase. Et donc dans PHP n'est pas mort, PHP is not dead, on entend d'abord que PHP est potentiellement mort, et ensuite on va se poser la question de « Ah non, il n'est pas mort, mais pourquoi ?» Et donc en fait, il faut arrêter de dire ça parce que ça propage toujours et ça entretient la légende qu'à un moment, PHP est mort. Alors, peut-être qu'à un moment, PHP s'est un peu perdu et a perdu en notoriété, en popularité, etc. Ça, c'est pas impossible, mais on continue à entretenir cette légende-là en parlant de cette fameuse phrase « PHP is not dead » pour parler des nouveautés de PHP. Donc, vaut mieux ne plus dire ça et parler vraiment de ce qui est important dans les nouveautés de PHP, qu'on a du typage dans 95-19% de la syntaxe maintenant. Vraiment, il y a très peu d'endroits où on n'est plus typé. On a pas mal de syntaxes qui sont arrivées à maturité, en gros, et qui rattrapent en fait un peu le retard que PHP avait par rapport à d'autres langages.
Il y a Composer.
On a un gestionnaire de package qui fonctionne très bien, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard, parce qu'on a un sujet sur l'infrastructure des package managers. Et surtout, en fait, on a des frameworks, alors on va parler des deux plus gros, hein, Symfony et Laravel, qui embarquent une énorme majorité de la communauté, qui font tourner des applications à grande échelle. On a des e-commerce internationaux aujourd'hui qui tournent en suivant le soleil, qui tournent sur du Symfony ou du Laravel, donc sur du PHP. Donc ça marche très bien et c'est devenu très performant, et ça devient encore plus performant avec les versions qui arrivent. Voilà, donc il y a encore quelques défauts, hein, on en parlera aussi probablement, et encore des fois à l'intérieur, dans la syntaxe, dans les fonctions natives qui sont fournies, des trucs un peu bizarres, mais on essaie quand même de s'en délester au fur et à mesure du temps.
Le ménage est fait régulièrement.
Ménage est fait de temps en temps, il y a un petit ménage qui va être fait en 8.5.
Il y a eu un gros gap entre PHP 5 et ses dernières versions, et jusqu'au PHP 7, et on se demande pourquoi la version 6 a disparu entre temps. C'est peut-être signe justement de l'incertitude qui a traversé le langage à un moment donné.
Non, c'est que les versions 6 sont maudites, demande à Windows.
Ah, PHP 6, il existe un livre PHP 6 qui a été publié et édité alors que la version n'est jamais sortie. C'était des histoires de support d'Unicode dans le corps, et en fait ça n'a jamais vu le jour parce qu'il y a eu des sujets dans la communauté qui font que le débat n'est pas arrivé à son terme, et donc la version a été abandonnée en fait au profit de PHP 7 et du gros gain de performance entre 5 et 7 qu'on a connu.
Notamment avec le
Just in time.
Le just in time, exactement, c'est ça que je cherchais comme mot, qui ne cesse de s'améliorer entre les versions. Là, si on veut faire une transition pour un sujet qu'on abordera peut-être plus tard, mais sur le futur PHP 9 améliorerait encore plus les performances.
Le futur PHP 9, racontez-nous plus, Sébastien, s'il te plaît.
Alors, j'en sais pas forcément quand est-ce que ça va sortir déjà, mais j'ai lu donc un lien que j'ai pu partager avec nos autres intervenants, les nouveautés dans PHP 9 qui continuent à faire le ménage dans les syntaxes ou les usages un peu curieux, notamment la possibilité de faire de l'incrémentation automatique magique de variables qui ne sont absolument pas des variables de type numérique ou entière, de faire par exemple une string qui contient A9, faire un plus dessus, et puis ça incrémente cette variable là comme si c'était un nombre de façon un peu magique. Et bien PHP 9 supprime ce genre de comportement où on se demande déjà qui fait ça. Bah, j'imagine qu'il y en a qui doivent le faire. Pas d'offense, hein. J'ai jamais eu l'idée de faire ça personnellement, en tout cas.
Je dirais que le problème, il n'est pas tant que des gens le font consciemment, c'est juste que dans une variable en PHP, tu peux facilement remplacer une variable qui était une string par un entier ou vice-versa, et tu fais pas gaffe, tu as une fonction qui te renvoie à une chaîne de caractères, tu fais plus dessus, rien ne plante, et tu continues, mais avec une variable qui ne veut plus rien dire. Quoi. Je pense que c'est surtout ce genre de cas où tu préfères que ça plante, en fait. Plutôt que d'avoir une interface bizarre ou une base de données corrompue ou ce genre de choses.
C'est vrai qu'on a du typage partout, mais on a aussi un peu d'autocasting un peu magique à certains endroits où la frontière entre un entier et une chaîne de caractères, elle n'est pas forcément... c'est pas la grande muraille de Chine, quoi, c'est pas ultra figé. Ça peut être très pratique, mais du coup, ça ouvre le biais à ce genre de choses un peu bizarres dans PHP où on peut incrémenter une chaîne de caractères avec autre chose que du numérique devant. Donc oui, c'est sûr que PHP 9 fera en sorte que, type error là-dessus, les gars, on fait pas d'incrément sur quelque chose qui est pas du numérique, quoi.
Ouais, et puis dans les autres petites nouveautés, c'est pareil, c'est une clarification sur tout ce qui est interpolation. Le fait de mettre au sein d'une chaîne de caractères une variable qui sera traduite dans la valeur de la variable, avec visiblement des syntaxes diverses qui existent encore et qui manquent de clarté. Ça va rationaliser. Aussi pas mal de choses, pour faire rebondir ce que disait Julien, c'est sur le côté, on a envie que ça plante à un moment donné et qu'on ça nous arrête et qu'on se penche sur un sujet qui pose problème. C'est certains avertissements dans PHP, jusqu'à présent qui sont des avertissements, dans PHP 9 deviendront carrément des erreurs qui entraîneront une interruption du code, donc qui demanderont d'être traités de la bonne manière. Donc c'est vrai que ça continue à aller dans un sens où on sécurise de plus en plus PHP, et je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que ça, si on fait la comparaison avec les premières versions de PHP où on pouvait écrire un peu n'importe comment, de toute façon ça nous disait rien, ça marchait, c'est sécurisé ou pas derrière, on s'en fichait un petit peu. Là, le langage déjà se réaligne avec les enjeux sécurité qu'on a aujourd'hui, et surtout force l'utilisateur à adopter de meilleures pratiques dans son code. Et ça, je trouve ça super intéressant, et surtout ça participe au fait de garder PHP vivant. Et non, il n'est pas mort, effectivement.
Non, mais vu la, il n'a jamais été mort.
PHP est vivant, du coup, c'est bien, on retient PHP est vivant. C'est...
Ouais. Vu la quantité de PHP qui tourne aujourd'hui en prod, effectivement, c'est pas plus mal que les évolutions du langage aillent vers plus de sécurité, parce que ça fait partie aussi plus on réduit la surface d'attaque d'une application, mieux c'est. Et puis on sait que les applications web, dans le sens pas forcément API, mais justement où tu vas avoir de l'interface, des tokens, des trucs comme ça, en ce moment elles sont fortement visées, Et c'est pas plus mal de réduire la surface d'attaque.
D'ailleurs, Horacio disait que c'est le deuxième runtime le plus utilisé chez Clever.
Tout à fait. Bah oui, nous on fait pas démentir le reste du le reste de l'économie, j'allais dire, mais de l'écosystème.
Ils se tirent la bourre avec avec Node.js, quoi.
Ouais.
C'est ça, ouais.
D'ailleurs, en parlant justement de ça, maintenant que PHP a un composer et on a un gestionnaire de dépendances qui est vraiment bien, est-ce qu'il y a le même type de problème d'attaque supply chain qu'on a dans l'écosystème Node en ce moment? Est-ce que ça vous a aussi impacté avec l'écosystème Node ou pas autant?
Moins violemment, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Après, je pense que le trafic entre guillemets sur Packages, donc qui est l'équivalent d'NPM en fait côté PHP, il est certes très important, hein, on est toujours à centaines de millions d'installs par heure, par jour, j'en sais rien, mais c'est très conséquent. Mais on entend moins parler de corruption de paquets, de vol de tokens qui permettent d'insérer du malware, des choses comme ça. Mais j'ai souvenir quoi, il y a quelques années, on avait subi un peu des attaques par ce biais-là. Mais après, la boîte qui, parce qu'en fait, Composer, donc le gestionnaire de paquets, le gestionnaire de dépendance de PHP, est développé par Packagist. Donc en fait, il y a une boîte derrière. Mm-hmm. Et cette boîte-là fait de gros efforts sur la sécurité, sur justement faire en sorte que n'importe qui puisse pas publier n'importe quoi, ce qui est, sans être péjoratif, un peu le cas sur NPM, où justement GitHub commence à parler de sécuriser, aider NPM à sécuriser sa supply chain en réduisant la durée de vie des tokens qui permettent de publier, en ajoutant en plus de trusted publishers, donc d'organisations, de comptes qui sont autorisés à publier. Parce qu'en fait, en réduisant cette liste-là, ils augmentent le nombre de publishers un peu sauvages, on va dire, entre guillemets. Et en augmentant la liste des publishers de confiance, bah, ils se garantissent qu'eux ont accès peut-être des outils de sécurité interne de GitHub ou d'NPM plus avancés, et donc ça sécurise la supply chain de tout le monde. Donc ça peut être intéressant. Mais oui, voilà, c'est un peu comme sur tous les package managers, je sais pas si côté Java, Scala, Rust, ça arrive aussi, mais ouais, de temps en temps. Ouais.
Ça arrive aussi, mais voilà, c'était pas au point que pour NPM.
Ouais, c'est ça, ça n'a pas l'ampleur de NPM, ouais, c'est ça, ouais.
Mais ça n'a pas l'ampleur des nombres de téléchargements au cours d'une semaine que les paquets NPM qui sont visés. Bah, donc...
Mais c'est marrant, ça ouvre un sujet qui est en fait transverse à tous ces gestionnaires de dépendance qui sont clairement la colonne vertébrale de pas mal de techno et de pas mal de dépendance de ce que nous on fait au quotidien en tant que développeurs. C'est que aujourd'hui, il y a une espèce de consortium de gestionnaires de paquets, de gestionnaires d'infrastructures comme ça. Donc, on peut citer Maven, PyPI, Crate de Rust. Packagist en fait partie. Toutes ces organisations, parce qu'on ne sait jamais trop comment les qualifier, des fois, c'est des organisations open source, des fois, c'est des boîtes comme Packagist. Bah, en fait, ils ont ouvert une lettre publique là récemment pour expliquer que tout ça repose sur des CDN, ça repose sur du computing, parce que bah, à un moment, il faut vérifier les signatures, il faut faire tout ça. Et donc, toutes ces infras-là, en fait, elles sont pas gratuites. Aujourd'hui, elles sont financées par des bienfaiteurs, entre guillemets, par des boîtes qui ont la conscience que ça, c'est pas gratuit, et donc, ils font des dons réguliers à ces organisations. Et des fois, c'est juste la boîte derrière qui a trouvé une espèce de business model qui est pas forcément rentable à terme, qu'à des services. Packagist a un service privé où en fait tu peux avoir ton propre registre, ton repository privé. Mais des fois, ça suffit pas forcément pour financer toutes ces infrastructures. Et donc, ouais, il y a une lettre ouverte qui appelle à prendre conscience en fait de ça et de faire en sorte que si vous utilisez en tant que société, en tant que organisation commerciale, ce genre d'infrastructure pour faire du business, bah, ce sera intéressant d'évaluer à quelle hauteur vous pourriez aider à financer, à supporter ce genre d'infrastructure pour pas qu'un jour ça tombe, parce que ça vous sert en fait, ça sert à créer de la richesse, créer de la valeur pour tout le monde, et il faut en prendre soin.
On met un lien vers la lettre de ouais. Open Infrastructure is not free.
Est-ce qu'on serait pas arrivé à ce moment du podcast où on fait une référence à XKCD?
Oui.
Et ouais, non, elle est facile, mais je l'ai pas. Ouais, mais ouais.
Elle est très facile, tu sais, la fameuse image avec la petite fille qui tient tout le truc.
C'est ça.
Effectivement, nous, c'est aussi le genre de questions qu'on se pose sur comment mettre plus de cash devant tous ces trucs-là chez Clever Cloud, parce que C'est déjà arrivé qu'on se fasse rate limit par certains services de gestion de paquets, etc. Parce que ils voyaient plein de requêtes venir de nos IP, mais en fait c'était tous nos clients qui venaient des mêmes IP finalement. Donc et ça fait beaucoup de trafic.
Ou encore
donc,
pire,
on réfléchit à comment mettre du cache pas forcément du proxy, mais voilà, mettre en cache toutes ces dépendances. Là où ça pose problème, c'est que si on voulait faire un cache à l'échelle de Clever Cloud, ça veut dire que potentiellement dans le cache arrivent des dépendances privées qu'on mettrait à disposition de tout le monde, et on ne veut pas faire ça. Et voilà, donc ça veut dire faire un cache par client, avoir la bonne infra aussi pour stocker tous ces trucs-là. Comment est-ce qu'on invalide le cache ? Bon, c'est du boulot, on y travaille. Mais oui, effectivement, c'est...
Surtout, ça permettra de... si les infras dont tu parles, Mathieu, sont indisponibles, parce que ça a déjà arrivé qu'il y ait des petites pannes, on n'arrive plus à fetch, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, visiblement, c'est un peu global, c'est pas juste Clever qui s'est fait rate limit. Et là, les clients viennent nous voir en mode « Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tout cassé, mon projet ne déploie plus. » Avec ce genre de fonctionnalité, effectivement, on pourra... effectivement,
casser ce genre d'indisponibilité. Ça pourra casser chez les autres, mais pas chez Clever.
Exactement, oui. C'est ça.
Non, mais c'est sûr, mais c'est déjà arrivé, hein, que même nous, dans nos CI, on a des fois des paquets qui ne s'installent pas, soit parce qu'il y a Packages qui a un petit down ou qui tousse un peu, soit parce que derrière, en fait, il y a GitHub. C'est aussi pour ça qu'on parle de supply chain, c'est qu'en fait, tu peux avoir ta CI qui va avoir un cache local, mais ce cache local, il tape chez Packages, celui-là, il tape chez GitHub, et, enfin, GitHub ou autre, d'ailleurs, tu vois, on peut publier des paquets sur à peu près n'importe quel provider Git. Mais ouais, c'est un vrai sujet, c'est de se dire, ça paraît magique, ça marche 99,99% du temps, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si vraiment un jour ça tombe, parce que faute de financement, faute de maintenance, en fait.
On s'habitue à que c'est des trucs qui sont là, simplement.
C'est ça.
En fait, moi, j'aime bien, parce que quand je donne des cours à des jeunes étudiants maintenant, ils n'ont pas connu ça, je parle de l'écosystème Java, et par exemple, de quand... Au début, avant Maven, on allait chercher les bibliothèques dans les sites web de chacun des projets. On récupérait la bibliothèque. Ensuite, on allait chercher les dépendances de chaque bibliothèque et on passait peut-être une demi-heure pour mettre à jour quand on avait à peine une dizaine de dépendances dans une appli. Aujourd'hui, dans n'importe quelle appli, dans n'importe quel langage, on va se retrouver avec une centaine ou plusieurs centaines de dépendances de qu'on fait Hello World. Et tout ça se met à jour magiquement au moment où on construit le projet et on a arrêté de réfléchir qu'est-ce qu'il fait tenir un NPM registry, un Maven central ou whatever.
Mais ça, côté PHP, on s'en rend un petit peu plus compte parce qu'on a un petit problème. Enfin, un petit problème. On a un fait historique. C'est que le modèle Fire and Forget de PHP fait que généralement, quand on l'installe, il est configuré pour avoir un maximum de mémoire utilisable de soit 28 ou 256 mégas de RAM. Sauf que Composer, quand il arrive à un moment et qu'il doit résoudre un arbre de dépendance avec 72 dépendances primaires, il commence à râler un peu et le memory limit arrive très vite. Et c'est là qu'on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, c'est pas rien du tout de computer ce genre de truc, et derrière, on va aller télécharger la moitié d'Internet. Bon, pas au niveau de notre JS, mais...
C'est très drôle ce que tu dis, parce que quand l'année dernière, je m'étais remis à PHP, j'avais découvert Composer, j'étais tout content, et quand j'essayais de déployer chez Clever, je me rendais compte qu'il fallait... une instance plutôt grosse pour la partie construction, pour une toute petite instance dans la partie exécution. Et c'était... et ça m'avait surpris, le fait de... Ah ouais, la partie de construction, elle est extrêmement gourmande, et après, ça ronronnait avec une toute petite instance.
Mais ça, c'est parce que les composeurs génèrent le point .lock, et c'est comme le package from JSON
On encourage à pousser le point .lock avec, pour éviter justement des comportements inattendus. Et puis en plus
puis
de
même
ça...
Le point si .lock a... te fixe tes versions, en fait.
C'est ce que je voulais souligner. Et en plus, à côté de ça, si en plus on a des dépendances JavaScript à installer pour générer... générer des assets pour le fonctionnement final, effectivement, ça peut être assez gourmand, comme beaucoup d'autres technos qui sont très très gourmands à la construction. Celui que j'ai en tête là, qui m'a traumatisé jusque-là, enfin récemment, c'est Cal.com, ce sont des calendriers qui est littéralement infâme à build. Bon, alors, c'est pas du PHP, on reste sur du Node, TypeScript, etc. Mais
c'est vrai qu'avec PHP, sa réputation passée, on oublie en fait qu'on a maintenant cette phase de build, même si on n'est pas un langage compilé. Il y a cette phase de build où on va installer des dépendances, il y a tout un tas de trucs à faire. Puis généralement, ouais, une appli PHP, bah, elle sert quand même à faire du web, et donc on a généralement des dépendances JS. Même si côté Symfony, on essaye de se passer de notre JS et qu'on a des solutions pour éviter pour faire du JavaScript moderne et des applications modernes sans avoir de builder Node.js. J'ai pas mis de lien là-dessus, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû.
Bah, t'y allais tant, on l'ajoutera a posteriori.
Mais ça dit, si on va faire une transition sur les builders Node.js, c'est Sébastien qui a mis ce lien peut-être sur Bun.
Non,
c'est moi qui l'ai mis.
Ah, c'est toi qui l'as mis.
C'est moi qui l'ai mis, parce que là, j'ai trouvé l'article plutôt épatant. On est à Bun, c'est un builder alternatif pour
Node. Et Runtime aussi. Et Runtime également, il ne fait pas que le build.
Mais là, c'est surtout sur la partie build. C'est un builder et Runtime alternatif pour l'écosystème Node, mais un builder qui est surtout extrêmement rapide. Et quand je dis extrêmement rapide, ça veut dire 5, 6, 7 fois plus rapide qu'un NPM classique et 10, 15 fois plus rapide qu'un Yarn. Et moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Et l'article explique justement comment ils ont réussi à le faire. Et l'article approfondit bien. Et il t'explique qu'une bonne partie des problèmes, c'est des system calls. Et donc, il t'explique comment ils sont allés à tous les endroits en train d'optimiser. Et comme ils sont partis d'une feuille blanche, bah, ils sont arrivés à la partie gestionnaire de paquets de Bun qui est simplement incroyablement rapide et pas très gourmande. Donc l'article, ça vaut carrément la peine.
C'est extrêmement impressionnant, Bun. En fait, j'ai lu cet article parce qu'au début, je pensais que Bun, c'était juste un nouveau runtime.
C'était le IOJS de 2025.
C'est ça qui a l'avantage. Enfin, dans les fonctionnalités de Bun, il y a un support de TypeScript natif. Donc en fait, tu le balances directement dans ton projet TypeScript et ça va fonctionner. Après, ils le disent eux-mêmes, Bun ne supporte pas 100% des API de Node.js. Donc il y a certains usages. Je l'ai testé sur un projet qu'on a chez nous et le truc a planté au bout d'une heure. J'avais prévu tout le monde en mode « fais ta reverse si ça plante » sur l'infra de test. Hein. Je ne l'ai pas mis en prod comme ça. Mais j'étais curieux de voir. Et effectivement, ça a planté. Mais moi, je pensais que c'était juste effectivement un runtime alternatif. Et après avoir lu l'article, je l'ai testé sur le fameux projet dont je parlais. Et j'ai vidé tous mes caches NPM, Node, Bun, Yarn, tout ce que vous voulez. J'ai fait un NPM install donc à vide. Il y avait déjà un point lock. Par contre, mais bref, ça a mis 7 secondes à récupérer les dépendances et à construire le projet. J'ai tout revidé, j'ai lancé Bun, 0,5 secondes. Genre, les téléchargements des dépendances. Je ne suis pas sur un projet avec 50 dépendances et énormément d'outils, mais quand même, le téléchargement des dépendances, le untar des dépendances, etc. La génération du bun.lock. Tout ça, une demi-seconde. Genre, c'était fini avant que j'ai eu le temps de... Enfin, c'est impressionnant. J'invite vraiment tout le monde à tester ça. Genre, juste remplacer npm install par bun install, c'est bluffant.
Moi, j'avais eu la même chose, mais un peu par hasard, avant de lire l'article, j'avais testé bun justement sur des projets en TypeScript. Je me disais, mais c'est pas possible, le bun install... Il doit choper les caches de NPM parce que c'est trop rapide. J'avais effacé les caches et j'avais dit, ah non, mais là, c'est... Donc c'est très curieux, mais c'est... Voilà, c'est surtout très bien écrit l'article qui t'explique, bah écoute, on avait eu le temps de voir où est-ce que c'était l'un pour les autres. On avait quelque part l'avantage de commencer de zéro. On a fait un truc vraiment optimisé. Donc, comme article d'ingénierie, c'est super sympathique.
Ah, parce que c'est bien de voir que c'est plus performant, mais c'est bien de comprendre aussi pourquoi c'est intéressant.
Ouais, mais est-ce que c'est pas surtout parce que la façon dont ça a été écrit, Bun, puisque NPM, c'est quoi? C'est écrit en JavaScript.
Ouais.
Et Bun, ouais, c'est écrit dans autre chose, donc on peut s'imaginer que...
C'est écrit en Zig, c'est ça?
Ouais, c'est, Zig. C'est une des raisons qui donne dans l'article. C'est que c'est écrit en Zig, donc en fait, ils n'ont pas la... Ils expliquent pourquoi, pour le cas d'usage de NPM, la VM JavaScript de Node, pourquoi elle ralentit le process. Parce qu'il y a une event loop qu'il faut gérer, donc tout se passe pas... tu fais de la... pas vraiment de la parallélisation, mais un petit peu quand même, mais pas aussi bien que si tu étais en direct. Avant de pouvoir faire des appels I/O, en fait, tu as des transformations UTF-16, UTF-8, un petit peu partout, donc dans un sens, puis dans l'autre. Et un certain nombre d'appels que tu fais qui vont, pour un appel, tu as l'impression que c'est juste un appel d'I/O, en fait, ça va en faire 4-5 des syscalls de suite, parce que c'est comme ça que Node a implémenté cet appel pour te donner une interface un peu jolie. Donc le fait d'être dans un langage effectivement plus proche de la machine leur a permis de diviser par je sais plus combien le nombre d'appels de syscall pour aller chercher du disque, pour aller chercher du réseau, etc. Et ça parallélise aussi beaucoup mieux, parce qu'effectivement la parallélisation dans Node.js, en fait, ça fonctionne sur l'event loop, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui tourne et qui fait avancer les sujets les uns après les autres en tournant en permanence. Et quand il a fini de gérer les sujets, il revient au premier. Et donc la parallélisation est quand même moins efficiente, moins efficace.
D'où le fait que si tu le fais en direct, c'est d'une certaine manière mono-threadé Node, même si c'est pas vraiment vrai. Et que avoir plein de CPU, c'est pas forcément utile. C'est des sujets qu'après qu'on retrouve chez les clients qui comprennent pas pourquoi en mettant une très grosse machine virtuelle avec beaucoup de cœur, ils ont toujours des problèmes, alors qu'en mettant plus de machines mais plus petites, ils ont plus de performance, et ça les étonne beaucoup souvent. Mais on revient à la façon dont est géré Node, et
exactement
ça en fait écho à cette histoire de performance entre NPM et Bun.
Nickel. Et on va continuer parce qu'on a plein d'autres liens. Julien, qu'est-ce que tu avais, toi, comme lien tout à l'heure?
Eh bien, comme ça fait longtemps que Quentin m'engueule parce que j'ai toujours pas refait d'épisode sur le kernel, je me suis dit que j'allais mettre quand même quelques petites news. Il y a 2-3 trucs qui ont été open sourcés, qui ne sont pas encore forcément dans le repo officiel du kernel, mais qui peuvent être, qui sont des patchs qu'on peut appliquer si on veut faire un build en local. Des gens qui bossent, une boîte qui s'appelle littéralement Multikernel, qui travaille sur le fait de pouvoir faire tourner plusieurs kernels en parallèle dans le même système.
Plusieurs kernels au parallèle dans le même système.
Exactement. C'est-à-dire, c'est pas du... Donc, la news, c'est qu'ils viennent d'open sourcer leur patch, enfin leur noyau Linux sur lequel ils ont travaillé dans cette boîte-là. Donc, ce qui a suscité beaucoup de discussions, parce qu'il y a des gens qui disent OK, c'est sympa pour faire un petit POC, mais on n'est pas encore prêt d'avoir quelque chose de vraiment en prod, etc. Mais leur logique, c'est de se dire. On va essayer de faire tourner justement plusieurs kernels en parallèle. Il y a un kernel et ensuite tu peux en lancer plusieurs. Mais d'après les benches qu'ils ont fait et qu'ils annoncent, ça permet de rajouter quand même de la sécurité sur tes accès, parce que chaque kernel va avoir potentiellement, tu peux le bloquer sur un CPU, sur un bout de la RAM. Tout en s'évitant d'avoir un hyperviseur entre ton système et l'autre kernel que tu fais tourner. Donc ça permet d'éviter d'avoir à transformer des appels I/O ou des appels de mémoire, de vider le CPU, etc., un peu tout le temps, tout en, d'après eux, en gardant une sécurité quand même, enfin une isolation qui permet un peu de rendre ça sécurisé. Et ils aimeraient aussi rendre encore plus facile le fait de pouvoir changer à chaud un noyau sans avoir à redémarrer le serveur. Ce qui est un gros sujet, parce qu'en fait, si tu as une faille quelque part dans ton noyau ou une faille de ton CPU où tu as besoin de la corriger en mettant à jour ton kernel, bah, tu es obligé de redémarrer tes serveurs. Et si tu as des services qui tournent dessus, il faut d'abord vider le serveur ou faire une plage de maintenance. Enfin, quand tu es un cloud provider, c'est pas simple de faire ça. Et donc, c'est le genre d'opportunité que ça pourrait permettre. Il y a déjà des travaux sur le fait de pouvoir changer de noyau un peu à chaud, mais apparemment, ça, c'est une approche qui pourrait être aussi intéressante.
Wow!
Voilà.
Non, après, kernel. Hein. Mais du coup, ça permettrait à du code userland de décider quel kernel il appelle ou...
Ouais, l'idée, okay, c'est que tu pourrais lancer du code avec son kernel. Ce qui pourrait répondre aussi, ça ils le disent pas dans les articles que j'ai lus, mais une des choses qu'on reproche à Docker, c'est que tu te retrouves avec du code qui tourne dans un file system qui contient une glibc ou muzzle, etc., donc une implémentation de la libc qui n'est pas forcément compatible avec celle qui tourne sur l'hôte et qui n'est pas non plus potentiellement compatible avec le noyau qui tourne sur l'hôte. Alors effectivement, les plantages liés à ça sont rares, mais ça existe quand même d'avoir une incompatibilité entre les deux et d'avoir des problèmes où pour s'en dépatouiller, c'est quand même un peu compliqué. Et donc potentiellement lancer les gens parfois considèrent que lancer tes applications dans un conteneur, ça va améliorer la sécurité de tes applications, ce qui n'est pas vraiment vrai. Potentiellement, on pourrait améliorer le lancement de conteneurs en lançant carrément un noyau derrière, qui serait un poil plus lent à lancer que ton conteneur Docker, mais potentiellement plus rapide à lancer que un hyperviseur qui lance la VM avec un full Linux dedans. Tu lancerais quand même plus ou moins un full Linux parce que en fait tu lances ton OS, mais tu t'évites quand même certaines surcouches d'accès, et a priori les différents kernels auraient tous accès un peu de la même façon, un petit peu tout, alors que souvent quand tu fais de la machine virtuelle, tu vas avoir plutôt tendance à dire soit tu virtualises le matériel, soit tu vas dire ce matériel là il est lié à cette machine virtuelle là et plus personne peut y toucher, quoi. Donc, potentiellement pour des gens qui auraient besoin de GPU, c'est un peu à la mode en ce moment, ou ce genre de truc. C'est un peu compliqué de virtualiser les GPU, voilà, de partager des GPU entre machines virtuelles. C'est pas si simple. Et ça pourrait peut-être être une réponse à ça, quoi. Donc là, ça a été open sourcé le 21 septembre. Donc
il y a quand même un kernel qui est, entre guillemets, maître.
A priori, qui... il y a quand même un kernel qui est en dessous, tu vois. Mais l'idée, c'est de laisser un accès quasiment direct au hardware, au
c'est
kernel
ça. Si on fait un syscall au kernel, un des kernels alternatifs, il n'a pas besoin d'aller répercuter ça sur le kernel maître.
De ce que j'en ai compris, effectivement.
Ok. Mais par rapport à Docker, où les gens souvent ce qu'ils intéressent aussi, c'est de pouvoir utiliser une stack liée à une distribution Linux particulière. Comment tu retrouves ce genre de, enfin d'ailleurs, comment on imagine retrouver ce genre de comportement, parce que un kernel c'est bien, mais souvent au-delà de ça, il y a tout le userland qui.
Ouais, en fait, tu peux combiner les deux. De ce que j'en comprends, hein. Tu peux combiner les deux dans le sens où tu peux avoir ton kernel et lancer en fait un conteneur direct. Enfin, ce qu'on appelle un conteneur, en fait, c'est un processus que tu lances dans un cgroup, enfin dans un environnement un peu limité, dans un quelque part dans un file system, enfin dans ton file system, pas au root de ton file system. Et avec des accès CPU RAM que tu peux un peu limiter et le process est dans son propre Shroud. Enfin, c'est un Shroud un petit peu amélioré, plus sécurisé, hein, pour faire simple. Donc, tu pourrais garder un peu ce fonctionnement-là, mais lancer carrément toute ta stack de ton système d'exploitation, quoi. Avec ton kernel, okay. Et qui lancerait que
mais
ton
avec
process,
un kernel potentiellement compatible avec le système qui vient derrière.
Exactement, ouais, c'est ça. Voir un kernel avec peut-être beaucoup moins de modules compilés. Enfin, tu vois, si tu penses sécurité, tu pourrais aussi avoir un noyau qui n'a que les choses qui t'intéressent, alors que celui du système en dessous, qui gère peut-être plus de choses, tu pourrais lui activer plus de fonctionnalités.
Et donc, pour le moment, la partie open source, elle est testable, ça permet de faire des choses, ou c'est plutôt une preuve de concept et de regarder, on arrive à faire.
Alors, a priori, tu peux quand même faire des choses avec. J'ai pas testé, je vous avoue. Mais en fait, oui, il y a une boîte qui bosse dessus et qui s'est dit, là, on est arrivé sur quelque chose de pas trop mal. Et on est capable de... On est capable maintenant de redonner à la communauté et d'avancer ensemble, quoi.
Bah c'est cool, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
Du coup, t'as pas encore installé ça sur ton ordinateur pour pouvoir travailler
Non,
non, mais j'hésitais. peut-être ce week-end, je vais cloner, je vais prendre leur Linux et le compiler et voir ce que ça donne. Et voir comment ça marche aussi, parce que j'avoue, j'ai pas encore trop testé.
Bah, c'est un des trucs que ouais, ça donne envie de creuser un petit peu. Alors, bah, continuons, il nous reste encore des liens. Sébastien, tu as un autre lien à nous proposer ?
Dans les grands sujets qu'on a chez Clever Cloud, on parle souvent de Pulsar. Et alors, c'est pour l'instant, je n'ai pas encore énormément d'éléments, mais j'ai commencé à regarder un peu comment faire fonctionner, si on revient sur PHP, à faire fonctionner Pulsar et PHP ensemble. C'est vrai que c'est pas forcément le protocole auquel on pense, sachant que la lib n'est pas forcément non plus un client officiel, mais a priori qui fonctionne quand même bien. C'est un client natif PHP qui fonctionne bien avec Pulsar, sans devoir passer par l'API REST ou les WebSockets exposés sur Pulsar. Donc ça fait partie des choses que j'ai commencé à gratter pour pouvoir faire un peu plus de parallélisation de tâches dans des workers diverses et variées, plutôt que d'utiliser les traditionnels Redis ou RabbitMQ qui sont souvent dégainés régulièrement. Et je crois que Mathieu, toi, tu voulais parler de plutôt Kafka dans la série, qui se rapproche.
Dans l'écosystème Symfony, en fait, on a un composant dans Symfony qui s'appelle Messenger, qui est une couche d'abstraction, en fait, de toute cette vaste univers d'asynchrone. Et donc, on est capable de causer. On a un driver pour Redis, on a un driver pour RabbitMQ, pour SQS, enfin, on a même un driver AMQP. Donc, en fait, n'importe quoi qui respecte le protocole AMQP, bah, ça, on peut causer avec. Et il y a longtemps qu'on a une pull request ouverte sur Kafka. Il y a longtemps que j'ai pas vérifié dans quel état elle est d'ailleurs. Ça m'étonnerait qu'elle soit mergée, je l'aurais vu, mais il y a longtemps que ça c'est en cours. Et c'est vrai que personne pour l'instant s'est trop penché sur le sujet de Pulsar. Je peux aller revérifier récemment sur le dépôt Symfony, mais je crois pas avoir vu de gens, même dans les issues, discuter du support de Pulsar, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
C'est vrai, alors, Pulsar,
moi, je connais pas grand chose en Pulsar.
C'est ça, pas la techno pas qu'on nous dégaine le plus souvent. Après, l'intérêt, alors, bon, probablement Julien pourra en parler mieux que moi sur les intérêts profonds de Pulsar, mais on a une meilleure distribution c'est un système, mieux distribué, hein, et puis des outils qui sont plus complets, c'est pas très clair ce que je suis en train de raconter, mais qui permettent d'avoir une utilisation plus poussée du concept d'event, de message, dans une queue.
Déjà pour peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est que Pulsar, Kafka, etc.
Ça peut être une idée.
S'il y a des gens qui écoutent le podcast depuis 4 ans, je pense qu'ils ont déjà dû en entendre parler, mais j'espère qu'on a toujours des nouveaux auditeurs. Pulsar, Kafka, RabbitMQ, tout ça, c'est des technologies qui fonctionnent pas toutes exactement pareil, mais dont le but est de pouvoir faire transiter des messages. Donc, ce qu'on appelle un message broker en anglais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont envoyer de la donnée sur le serveur ou sur le cluster en général, RabbitMQ, AMQP, Kafka ou sur Pulsar. Et ensuite, on a des consommateurs qui vont aller lire les messages avec tout un tas de systèmes de... quand on voit un message ou quand tu lis un message, tu peux t'assurer qu'un groupe de consommateurs puisse ne lire un message qu'une seule fois. Donc, s'il y en a 5 consommateurs qui lisent la même... En général, on a des queues, des topics. Il y a différents noms en fonction de la technologie, mais... quand les messages arrivent, ils sont dans une queue de traitement. Et en fonction de la technologie, en fonction des options que tu peux mettre, tu peux dire, là, mes 5 services qui tournent, en fait, c'est 5 fois le même service, et j'ai juste envie que quand un message arrive, il soit lu par un des 5 services, et pas par les 5 en même temps. Et donc, y a des mécanismes dans toutes ces technologies-là qui permettent de faire ça, où tu peux pouvoir dire, quand un message arrive, je veux que tout le monde le lise, parce que tu as envie d'informer les gens d'un événement qui vient d'arriver. Donc, on peut faire pas mal de choses. L'avantage d'utiliser... Enfin, on pourrait se dire, on pourrait envoyer les messages en HTTP sur chacun des services, c'est prêt. l'avantage d'utiliser des outils un peu comme RabbitMQ, comme Kafka, comme Pulsar, donc là, on cite les trois parce qu'en fait, c'est trois protocoles différents, c'est que il y a des... En général, tu peux essayer de stocker un peu les messages en attendant qu'ils soient lus. C'est-à-dire que quand tu fais ton appel à HTTP, s'il n'y a rien qui répond en face, ton appel est juste perdu et toi, tu es censé, quelque part dans ton client, garder le message pour le renvoyer plus tard.
Avec gérer une stratégie de retry et
avoir du retry, Et en fait, c'est du boulot qui n'est pas si simple que ça. Et en fait, les différentes technologies dont on parle te permettent d'envoyer le message. En général, on s'assure que ce cluster-là, lui, tienne le plus souvent possible. Et ensuite, le service qui est censé lire le message que tu as envoyé, il le lira plus tard quand il sera à nouveau disponible ou quand il aura fini de traiter les autres tâches qu'il doit traiter.
Et pourquoi c'est important? Parce que c'est une pièce de base dans la plupart des systèmes distribués. Parce que tu as toujours les mêmes problèmes, tu as des différentes personnes qui doivent différentes machines qui ont besoin d'être prévenues. Des fois, ils peuvent ne pas être là, des fois, ils peuvent avoir de latence réseau. Et donc, dans la plupart des systèmes distribués, il y a ce type de techno d'une forme ou d'une autre pour garantir à un moment donné que les différents composants peuvent avoir les informations.
Mais dans l'écosystème PHP, on s'en sert beaucoup parce que, je vais revenir encore une fois sur le truc, on a ce fire and forget qui est un peu historique et on ne veut pas bloquer la réponse HTTP au client, au browser en fait. On veut répondre le plus vite possible pour être performant et efficace. Et donc, généralement, ce qui est gourmand en ressources et ou en temps, on le déporte sur du traitement asynchrone avec ce genre de mécanisme.
Avec un worker qui vient lui dépiler.
Et en fait, le principe de base, c'est de se dire, on a quelque chose de lourd à traiter ou de long à traiter. Ça peut être resize d'image, ça peut être un appel à LLM qui prend X secondes. Et ben, ce truc-là, on veut pas qu'il bloque la requête HTTP que l'utilisateur vient d'envoyer. Donc, on va déporter ça dans un autre process PHP qui, lui, va écouter à travers ce message broker. On lui demande d'exécuter quelque chose et ça pop sur un autre process PHP.
Mais si vous, souvent, hein. J'ai une métaphore. Enfin, je voulais préposer une métaphore que j'utilise souvent pour expliquer. pour expliquer le concept pour ceux qui n'auraient pas encore saisi l'essence du truc. C'est vraiment l'idée. C'est si vous êtes dans un restaurant, on a les serveurs qui sont à l'étage et la cuisine qui est en bas. C'est les serveurs. Ils envoient les commandes dans un tuyau et à l'autre bout, à la cuisine, ils viennent récupérer au fur et à mesure les commandes. Il y a différents, par exemple, cuisiniers qui viennent récupérer une commande à la fois pour pouvoir les exécuter et ensuite les envoyer au client. Faut imaginer que sans ça, ce serait le serveur qui enverrait sa commande à la tête d'un cuisinier. S'il n'y a pas de cuisinier en face, ça tombe par terre et puis c'est perdu. Donc ça, c'est un peu le côté HTTP. S'il y a personne qui répond, le personne se penchera pour ramasser la requête. C'est perdu, c'est tombé par terre, c'est trop tard. Alors que si c'est dans le tuyau, ça reste. S'il y a personne pour la récupérer à un instant T, c'est pas grave. Elle est dans le tuyau, il y aura plus qu'à venir la récupérer quand il y aura quelqu'un de disponible. Puis surtout, la possibilité, si on les laisse dans le tuyau pendant tout le service, de pouvoir remonter dans les commandes, ce qui nous permet à la fin peut-être, par exemple, le serveur qui va s'occuper de facturer, de récupérer toutes les de commandes qui ont été faites par le client pour lui envoyer la note finale. Ce qui peut être pratique. Donc le côté un peu persistance, le côté de je prends quand je suis disponible pour traiter la demande et pas devoir réceptionner l'avion en papier que m'envoie le serveur là-haut. S'il y a personne, il tombe par terre et puis tant pis, on le piétine et plus personne s'en occupe. Voilà, la métaphore que j'utilise souvent, si ça peut aider certaines personnes.
Elle est bien. Je
valide.
Voilà. Et donc maintenant, il y a un client pour Pulsar en PHP. Nous, on aime bien Pulsar parce que, en tout cas, à l'époque où on a décidé de partir sur Pulsar, il y avait 2-3 limitations qu'on voyait à Kafka et Pulsar avait l'air d'être plutôt un bon cheval en termes de stockage. Ce qu'on aime bien, en fait, avoir des... Donc, un topic, c'est là où il y a les messages qui arrivent et qui sont lus. Il y a du réglage de la rétention dans Kafka, dans Pulsar, un peu dans RabbitMQ. L'architecture de Pulsar faisait qu'on trouvait que c'était mieux en termes de stockage des topics pour en fait ne jamais rien perdre de ce qui est mis dans un topic, tout en gardant ce fonctionnement de pouvoir s'inscrire, etc. Je ne sais pas à quel point Kafka est capable de le faire, mais en tout cas à une époque... ça le faisait moins bien et donc c'est pour ça qu'on avait choisi Pulsar, mais je sais que Pulsar peut on l'utilise d'ailleurs, aller offloader dans un S3 like les contenus des topics. Donc en fait quand t'as des messages qui sont plus vieux que un mois et que tu sais qu'en fait tu iras jamais les chercher pour faire de la production, tu iras les chercher pour faire de l'analytique, pour rejouer des vieux trucs, retrouver des infos, en fait ils vont être stockés au format je ne sais pas quoi, parquet, un truc comme ça dans S3. Et tu pourras aller, via Pulsar, tu pourras aller, il ira relire les fichiers dans le S3 au moment où tu en auras besoin. Ça sera plus lent, forcément, le moment où tu iras chercher les 3 derniers mois de messages, forcément tu vas perdre un petit peu de temps, mais en attendant, dans le cluster Pulsar lui-même, tu vas avoir juste le dernier mois de messages ou un truc comme ça, ce qui lui permet d'être plus efficace là-dessus. Bon, on n'est pas forcément là pour faire la pub de Pulsar, mais...
Je sais que
Mathieu demandait... Ouais.
Et pour rebondir aussi par rapport à tous ces protocoles qui existent, dans les projets chez Clever Cloud, ça va être aussi d'exposer des connecteurs, dans des sortes de proxys qu'on place devant Pulsar, qui sont capables de causer dans le protocole AMQP, dans le protocole Kafka, dans le protocole MQTT, pour ceux qui
Pulsar,
seraient plus
en quoi, IoT, nativement
en Pulsar.
En Pulsar, et c'est basé sur quelque chose de...
C'est leur proto, c'est comme Kafka, c'est comme Kafka, mais c'est pas Kafka.
D'accord, c'est pas du protobuf ou quelque chose comme ça.
Protobuf, c'est si je dis pas de bêtises, hein, c'est un format pour le message, et tu peux, Pulsar, tu peux mettre dedans, tu peux mettre ce que tu veux, un tableau de bytes.
D'accord.
Donc, il peut être encodé en protobuf, il peut être encodé en JSON, en Avro, si tu veux. Et il y a un système, Pulsar est capable de comprendre, si tu lui dis, les différents formats, et tu peux mettre sur un topic un schéma, et Pulsar va refuser des messages s'ils ne sont pas dans le bon schéma.
Ah, okay.
On l'utilise assez peu parce que c'est très casse-gueule.
C'est pas trop la responsabilité du broker généralement de d'essayer de valider.
Au début on trouvait ça cool, et en fait le moment où tu dois changer le schéma de ton topic, laisse tomber.
C'est un peu le problème de la migration de base de données, mais à échelle où t'as 0,2 secondes de fenêtre de faire ta migration.
Exactement. Donc en fait, on l'utilise pas, on déclare tout en red byte, et puis on essaie de versionner nos schémas pour que de chaque côté ça soit capable de relire. Et on va même préférer parfois se dire, si on passe d'un format V2 à un format V3 pour, je sais pas, les access logs, par exemple, on est en train de bosser dessus chez Clever. Peut-être qu'on aura un autre topic où on saura que dans ce topic-là, c'est du V3 versus le topic d'avant où on était en V2 et voilà.
Mais pour terminer, donc sur tous ces protocoles de MQ, on va dire, L'intérêt, ce serait d'avoir une seule technologie en back-end, qui est Pulsar, et d'exposer des proxys qui discutent dans le protocole qui t'intéresse, pour justement simplifier derrière, pour éviter d'avoir X cluster RabbitMQ, X cluster Kafka, et tout sur un peu un Pulsar, un cluster Pulsar, plusieurs clusters Pulsar, enfin, peu importe.
Et ben MateriaMQ.
Exactement.
Je sais pas si c'est dans votre to-do list,
mais on n'a même pas besoin de le dire nous maintenant c'est nos invités qui le disent effectivement. Ça.
Et tout ça dans un, enfin, ce qu'on appelle, pour ranger dans la grande case, des Utopic as a Service. C'est, tu veux du topic, tu veux du message queuing, et tu consommes. Tu as un token.
Et la guerre de compatibilité, tu veux.
C'est ça. T'as un token, t'as un protocole, ok, vas-y.
Et si t'es pauvre et que tu veux pas te prendre la tête, Redis a un système de queue qui est beaucoup utilisé dans PHP d'ailleurs.
PG a un système de queue qui marche très bien.
PG aussi un système de queue. Donc en fait, tu peux réutiliser ta Redis que tu utilisais pour tes sessions PHP pour mettre tes queues dedans, et pareil pour ta PostgreSQL. T'es pas obligé de dégainer le Kafka, le Pulsar, qui sont effectivement bien pour quand t'as des gros usages.
C'est ça.
Et que t'as des besoins vraiment de distribution de.
Des systèmes distribués. Voilà. Sinon, il y a des solutions pour des petites applications, ça peut être très vite overkill.
C'est ça.
Bon bah, je pense que on est bavard quand même, ça fait quand même une heure qu'on discute. On va finir ici cet épisode, mais avant, comme d'habitude, il va falloir qu'un de vous me donne une musique de fan. Allez, qui veut se lancer? Qui a quelque chose en ce moment, toute la journée dans les casques? Qui est obsédé par une musique qui a envie de nous faire partager?
Comme Mathieu est l'invité, on va le laisser choisir la musique de ce premier.
Ouais, j'en ai plusieurs. Ça dépend du moment de la journée, de ce que je fais de mes journées. Soit ça va être dans le train, soit ça va être en codant. Alors, je t'ai mis un lien, Horatio. C'est un groupe que j'ai vu en live il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, du côté de chez moi, là, du côté de Niort. C'est Meute, donc c'est un groupe allemand. Okay. Et donc c'est une fanfare, en fait. Donc, c'est des cuivres, des percus, des choses comme ça. Okay. Et ils ont la particularité de faire un peu l'inverse des groupes électro qui reprennent du classique. Eux, ils font l'inverse. Ils reprennent des tubes électro en fanfare.
Oh, ça doit être sympa,
assez incroyable. Et ils descendent dans la fosse faire des morceaux avec le public parce qu'ils ont que des instruments portables, en fait, comme une fanfare. Et c'est vraiment excellent. Donc, ils ont fait des lives à Paris, à Coachella. Et donc là, il y a un live Coachella où ça reprend You and Me de Disclosure. Et vraiment, c'est assez bluffant.
Okay.
C'est grave ma cam, mais je pense que mon épouse va te détester.
Ah. Et ben moi, elle adore. Elle connaissait pas. Je l'ai fait découvrir parce qu'elle est percussionniste et vraiment, elle a adoré. On a passé un super concert.
Je connais pas. Je vais écouter. Ça a l'air très très sympa.
Merci pour cette suggestion de fan et merci à vous trois pour être là pour cet épisode et surtout merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonne journée à tout le monde.
Merci.
À très bientôt.
Salut.
Bonne journée.